Le talon de fer, chapitre 9, un rêve mathématique. Au milieu de la consternation que sa révélation avait causée, Ernest reprit la parole. Une dizaine d'entre vous ont affirmé ce soir l'impossibilité du socialisme. Puisque vous avez déclaré ce qui est impraticable, permettez-moi maintenant de vous démontrer ce qui est inévitable. C'est la disparition non seulement de vous autres petits capitalistes, mais aussi des gros capitalistes et des trusts eux-mêmes à un moment donné. Souvenez-vous que la vague de l'évolution ne revient jamais en arrière. Sans reflux, elle progresse de la rivalité à l'association, de la petite coopération à la grande, des vastes combinaisons aux organisations colossales, et de là au socialisme la plus gigantesque de toutes. Vous me dites que je rêve. Très bien, je vais vous exposer les mathématiques de mon rêve. Et, d'avance, je vous défie de démontrer la fausseté de mes calculs. Je vais développer le caractère fatal de l'écroulement du système capitaliste et déduire mathématiquement la cause de sa rupture. Allons-y. Et soyez patient si je cherche mon début un peu en dehors du sujet. Examinons d'abord les procédés d'une industrie particulière. Et n'hésitez pas à m'interrompre si je dis quelque chose que vous ne puissiez admettre. Prenons, par exemple, une manufacture de chaussures. Cette fabrique achète du cuir et le transforme en souliers. Voici du cuir pour 100 dollars. Il passe à l'usine et en sort sous forme de chaussures d'une valeur de 200 dollars, mettons. Que s'est-il passé? Une valeur de 100 dollars a été ajoutée à celle du cuir. Comment cela? C'est le capital et le travail qui ont augmenté cette valeur. Le capital a procuré l'usine, les machines et payé les dépenses. La main-d'œuvre a fourni le travail. Par l'effort combiné du capital et du travail, une valeur de 100 dollars a été incorporée à la marchandise. Sommes-nous d'accord? Les têtes s'inclinèrent affirmativement. Le travail et le capital, ayant produit ces 100 dollars, se mettent en devoir d'en opérer la répartition. Les statistiques des partages de ce genre contiennent toujours de nombreuses fractions. Mais ici, pour plus de commodité, nous nous contenterons d'une approximation peu rigoureuse en admettant que le capital prenne pour sa part 50 dollars et que le travail reçoive comme salaire une somme égale. Nous ne nous chamaillerons pas sur cette division. Quels que soient les marchandages, elle finit toujours par s'arranger à un taux ou à un autre. Note. Ici, Everard montre clairement la cause de tous les troubles du travail de ce temps-là. Dans le partage du produit commun, le capital et le travail, chacun de son côté, voulait avoir le plus possible, et la querelle était insoluble. Tant qu'exista le système de production capitaliste, travail et capital continuèrent à se chicaner sur le partage. La chose nous paraît aujourd'hui risible, mais il ne faut pas oublier que nous sommes en avance de 7 siècles sur ceux qui vivaient alors. Fin de la note. Et ne l'oubliez pas, ce que je dis d'une industrie s'applique à toutes. Me suivez-vous? Les convives manifestèrent leur accord. Or, supposons que le travail, ayant reçu ses $50, veuille racheter des souliers. Il ne pourrait en racheter que pour $50, c'est clair, n'est-ce pas? Passons maintenant de cette opération particulière à la totalité de celles qui s'accomplissent aux États-Unis. Non seulement à propos du cuir, mais des matières brutes, des transports et du commerce en général. Disons en chiffres ronds que la production totale annuelle de la richesse aux États-Unis est de $4 milliards. Le travail reçoit donc en salaire une somme de $2 milliards par an. Des $4 milliards produits, le travail peut en racheter 2. Aucune discussion là-dessus, j'en suis certain. Et encore, mon évaluation est très large, car grâce à toutes sortes de manigances capitalistes, le travail ne peut même pas racheter la moitié du produit total. Mais passons là-dessus, et admettons que le travail rachète 2 milliards. Il est évident, dès lors, que le travail ne peut consommer que 2 milliards. Il reste à rendre compte de 2 autres que le travail ne peut racheter ni consommer. « Le travail ne consomme même pas ces 2 milliards !» déclara M. Cowalt. « S'il les épuisait, il n'aurait pas de dépôt dans les caisses d'épargne. » Les dépôts aux caisses d'épargne ne sont qu'une sorte de fonds de réserve, dépensés aussi vite qu'amassés. Ce sont des économies mises de côté pour la vieillesse, les maladies, les accidents et les frais d'enterrement. C'est la bouchée de pain gardée sur l'étagère pour la nourriture du lendemain. Non, le travail absorbe la totalité du produit qu'il peut racheter par ses salaires. 2 milliards sont laissés au capital. Celui-ci, après avoir remboursé ses frais, consomme-t-il le reste? Le capital dévore-t-il ces 2 milliards? Ernest s'arrêta et posa nettement la question à plusieurs individus qui se mirent à hocher la tête. « Je n'en sais rien, » dit franchement l'un d'entre eux. « Mais si, vous le savez, » reprit Ernest. « Réfléchissez un instant. » Si le capital épuisait sa part, la somme totale du capital ne pourrait s'accroître, elle resterait constante. Or, examinez l'histoire économique des États-Unis. Vous verrez que le total du capital n'a cessé de grandir. Donc, le capital n'engloutit point sa part. Souvenez-vous de l'époque où l'Angleterre possédait tant de nos obligations de chemin de fer. Au cours des années, nous les avons rachetées. Que conclure de là, sinon que la part inemployée du capital a permis ce rachat? Aujourd'hui, les capitalistes des États-Unis possèdent des centaines et des centaines de millions de dollars d'obligations mexicaines, russes, italiennes ou grecques. Que représente-t-elle, sinon un peu de cette part que le capital n'a pas ingurgitée? Dès le début même du système capitaliste, le capital n'a jamais pu avaler toute sa part. Et maintenant, nous arrivons au point. 4 milliards de richesses sont produites annuellement aux États-Unis. Le travail en rachète et en consomme pour 2 milliards. Le capital ne consomme pas les 2 autres milliards. Il reste un gros excédent qui n'est pas détruit. Que peut-on bien en faire? Le travail n'en peut rien distraire puisqu'il a déjà dépensé tous ses salaires. Le capital n'épuise pas cette balance puisque déjà, d'après sa nature, il a absorbé tout ce qu'il pouvait. Et l'excédent reste là. Que peut-on faire? Qu'en fait-on? On le vend à l'étranger, déclara spontanément M. Cowalt. C'est cela même, acquiesça Ernest. C'est de ce surplus que naît notre besoin d'un débouché extérieur. On le vend à l'étranger. On est obligé de le vendre à l'étranger. il n'y a pas d'autre moyen de s'en débarrasser. Et cet excédent vendu à l'étranger constitue ce que nous appelons la balance commerciale en notre faveur. Sommes-nous toujours d'accord? Sûrement, c'est perdre notre temps que d'élaborer cet ABCD du commerce, dit M. Calvin avec humeur. Nous le connaissons tous par cœur. Si j'ai mis tant de soin à exposer cet alphabet, c'est que grâce à lui je vais vous confondre, répliqua Ernest. C'est là le piquant de l'affaire, et je vais vous confondre en cinq secs. Les États-Unis sont un pays capitaliste qui a développé ses ressources. En vertu de son système d'industrie, il possède un trop-plein dont il doit se défaire à l'étranger. Note, Theodore Roosevelt, président des États-Unis, quelques années avant l'époque en question, fit en public la déclaration suivante. Il faut une réciprocité plus libérale et plus étendue dans l'achat et la vente des marchandises, de façon que nous puissions disposer, d'une façon satisfaisante, dans les pays étrangers, du surplus de production des États-Unis. Naturellement, le surplus de production dont il parlait, c'était le bénéfice des capitalistes en excédent de leur pouvoir de consommation. C'est à la même époque que le sénateur Mark Hanna disait « La production de richesses aux États-Unis est actuellement supérieure d'un tiers à sa consommation. » Un autre sénateur, Chauncey Depew, déclarait « Le peuple américain produit annuellement 2 milliards de richesses de plus qu'il n'en consomme. » Fin de la note. Ce qui est vrai des États-Unis l'est également de tous les pays capitalistes dont les ressources sont développées. Chacun de ces pays dispose d'un excédent encore intact. N'oubliez pas qu'ils ont déjà commercé les uns avec les autres et que, néanmoins, ces surplus restent disponibles. Dans tous ces pays, le travail a dépensé ses gages et ne peut rien en acheter. Dans tous, le capital a déjà consommé tout ce que lui permet sa nature. Et ces surcharges leur restent sur les bras. Ils ne peuvent les échanger entre eux. Comment vont-ils s'en débarrasser? En les vendant aux pays dont les ressources ne sont pas développées, suggéra M. Cowalt. Parfaitement. Vous le voyez, mon raisonnement est si clair et si simple qu'il se déroule tout seul dans vos esprits. Faisons maintenant un pas en avant. Supposons que les États-Unis disposent de leur surplus dans un pays dont les ressources ne sont pas développées. Au Brésil, par exemple. Souvenez-vous que cette balance est en dehors et en sus du commerce, les articles de commerce ayant déjà été consommés. Qu'est-ce donc que le Brésil donnera en retour aux États-Unis? De l'or? Dit M. Cowalt. Mais il n'y a dans le monde qu'une quantité d'or limitée, objecta Ernest. De l'or sous forme de nantissement, obligations et autres gages de ce genre, rectifia M. Cowalt. Cette fois, vous y êtes. Les États-Unis recevront du Brésil, en retour de leur excédent, des obligations et des garanties. Qu'est-ce que cela veut dire? Sinon que les États-Unis entreront en possession de voies ferrées, d'usines, de mines et de terrains au Brésil. Et qu'en résultera-t-il encore? M. Cowalt réfléchit et secoua la tête. « Je vais vous le dire, continua Ernest, il en résultera ceci, que les ressources du Brésil vont être développées. Bien, faisons un pas de plus. Quand le Brésil, sous l'impulsion du système capitaliste, aura développé ses propres ressources, il possédera lui-même un surplus non consommé. Pourra-t-il s'en débarrasser aux États-Unis? Non, puisqu'ils ont leur propre excédent. Les États-Unis pourront-ils faire comme précédemment et disposer de leur trop-plein au Brésil? Non, puisque ce pays a maintenant le sien propre. Qu'arrive-t-il? Désormais, les États-Unis et le Brésil doivent tous deux chercher leurs débouchés dans des contrées dont les ressources sont encore inexploitées. Mais, par le fait même qu'ils y déchargent leur surcroît, ces nouvelles régions voient s'accroître leurs ressources. Elles ne tardent pas à posséder des excédents à leur tour et se mettent à chercher d'autres contrées pour s'y soulager. Or, suivez-moi bien, messieurs, notre planète n'est pas si grande. Il n'y a qu'un nombre limité de régions sur la Terre. Quand tous les pays du monde, jusqu'au minime et dernier, auront une surcharge sur les bras et seront là à regarder tous les autres pays également surchargés. Que se passera-t-il? Il fit une pause et observa ses auditeurs. Leurs airs embarrassés étaient amusants à voir. Mais il y avait aussi de l'inquiétude sur leurs visages. Parmi des abstractions, Ernest avait évoqué une vision nette. Aussi là, en ce moment, ils la voyaient distinctement et ils en avaient peur. Nous avons commencé par l'ABCD, monsieur Calvin, dit malicieusement Ernest. Mais maintenant, je vous ai donné le reste de l'alphabet. Il est tout à fait simple, c'est ce qui en fait la beauté. Sûrement, vous avez une réponse toute prête. Eh bien, qu'adviendra-t-il quand tous les pays du monde auront un surplus non consommé? Où sera alors votre système capitaliste? Monsieur Calvin branlait une tête préoccupée. Évidemment, il cherchait une faute de raisonnement dans ce qu'Ernest avait dit antérieurement. Repassons rapidement ensemble le terrain déjà parcouru, résuma Ernest. Nous avons commencé par une opération industrielle quelconque, celle d'une fabrique de chaussures, et nous avons établi que la division du produit conjointement élaboré qui se pratiquait là était similaire à la division qui s'accomplit dans la somme totale de toutes les opérations industrielles. Nous avons découvert que le travail ne peut racheter avec ses salaires qu'une partie du produit et que le capital n'en consomme pas tout le reste. Nous avons trouvé qu'une fois que le travail a consommé tout ce que lui permettent ses salaires et le capital tout ce dont il a besoin, il restait encore un surplus disponible. Nous avons reconnu qu'on ne pouvait disposer de cette balance qu'à l'étranger. Nous avons convenu que l'écoulement de ce trop-plein dans un pays neuf avait pour effet d'en développer les ressources, de sorte qu'en peu de temps, ce pays, à son tour, se trouvait surchargé d'un trop-plein. Nous avons étendu ce procédé à toutes les régions de la planète, jusqu'à ce que chacune s'encombre, d'année en année et de jour en jour, d'un surplus dont elle ne peut se débarrasser sur aucune autre contrée. Et maintenant, encore une fois, je vous le demande, qu'allons-nous faire de ces excédents? Cette fois encore, personne ne répondait. Voyons, monsieur Calvin, provoqua Ernest. Cela me dépasse, avoua l'interpellé. Je n'avais jamais rêvé chose pareille, déclara monsieur Asmundsen. Et pourtant, c'est aussi clair que si c'était imprimé. C'était la première fois que j'entendais exposer la doctrine de Karl Marx sur la plus-value. Et Ernest l'avait fait si simplement que, moi aussi, je restais en panne et me sentais incapable de répondre. Note, Karl Marx, le grand héros intellectuel du socialisme, était un juif allemand du XIXe siècle, contemporain de John Stuart Mill. Nous avons peine à croire aujourd'hui qu'après renonciation des découvertes économiques de Marx, plusieurs générations se soient écoulées au cours desquelles il fut tourné en dérision par les penseurs et les savants estimés dans le monde. Par suite de ces découvertes, il fut banni de son pays natal et mourut dans l'exil en Angleterre. Fin de la note. Je vais vous proposer un moyen de vous débarrasser du surplus, dit Ernest. Jetez-le à la mer. Jetez-y chaque année les centaines de millions de dollars que valent les chaussures, les vêtements, le blé et toutes les richesses commerciales. L'affaire ne serait-elle pas réglée?
Elle le serait certainement, répondit M. Calvin. Mais il est absurde à vous de parler de la sorte.
Ernest riposta avec la rapidité de l'éclair. Êtes-vous moins absurde, monsieur le briseur de machines, quand vous conseillez le retour aux procédés antédiluviens de vos grands-pères? Que nous proposez-vous pour nous débarrasser de la plus-value? D'esquiver le problème en cessant de produire? De revenir à une méthode de production si primitive et imprécise, si désordonnée et déraisonnable, qu'il devienne impossible de produire le moindre excédent? Monsieur Calvin avala sa salive. Le coup de pointe avait porté. Il eut un nouveau mouvement de déglutition, puis toussa pour s'éclaircir la gorge.
« Vous avez raison, dit-il. Je suis convaincu, c'est absurde. Mais il faut bien que nous fassions quelque chose. C'est une affaire de vie ou de mort pour nous autres de la classe moyenne. Nous refusons de périr. Nous préférons être absurdes et revenir aux méthodes de nos pères, si grossières et dispendieuses qu'elles soient. Nous ramènerons l'industrie à l'état antérieur des trusts. Nous briserons les machines. Et qui voulez-vous faire vous-même ?
« Mais vous ne pouvez pas briser les machines, » répliqua Ernest. « Vous ne pouvez pas faire refluer la vague de l'évolution. Deux grandes forces s'opposent à vous, dont chacune est plus puissante que la classe moyenne. Les gros capitalistes, les trusts, en un mot, ne vous laisseront pas opérer la retraite. Ils ne veulent pas que les machines soient détruites. » Et, plus grande encore que celle des trusts, il y a la puissance du travail. Il ne vous permettra pas de briser les machines. La propriété du monde, y compris les machines, gît sur le champ de bataille entre les lignes ennemies des trusts et du travail. Aucune des deux armées ne veut la destruction des machines, mais chacune veut leur possession. Dans cette lutte, il n'y a pas de place pour la classe moyenne, pygmée entre deux titans. Ne le sentez-vous pas, pauvre classe moyenne, que vous êtes prise entre deux meules et qu'elles ont déjà commencé à moudre? Je vous ai démontré mathématiquement l'inévitable rupture du système capitaliste. Quand chaque pays se trouvera excédé d'une surcharge inconsommable et invendable, l'échafaudage ploutocratique cédera sous l'effroyable amoncellement de bénéfices érigés par lui-même. Mais ce jour-là, il n'y aura pas de machines brisées. Leur possession sera l'enjeu du combat. Si le travail est victorieux, la route vous sera aisée. Les États-Unis, et sans doute le monde entier, entreront dans une ère nouvelle et prodigieuse. Les machines, au lieu d'écraser la vie, la rendront plus belle, plus heureuse et plus noble. Membres de la classe moyenne abolie, de concert avec la classe des travailleurs, la seule qui subsistera, vous participerez à l'équitable répartition des produits de ces merveilleuses machines. Et nous, nous tous ensemble, nous en construirons de plus merveilleuses encore. Et il n'y aura plus d'excédents non consommés, parce qu'il n'existera plus de profit.
Mais si ce sont les trusts qui gagnent cette bataille pour la possession des machines et du monde, demanda M. Cowalt.
En ce cas, répondit Ernest, vous-même et le travail, et nous tous, nous serons écrasés sous le talon de fer d'un despotisme aussi implacable et terrible qu'aucun de ceux dont furent souillées les pages de l'histoire humaine. Le talon de fer, tel est bien le nom qui conviendra à cette horrible tyrannie.
Note, c'est, à notre connaissance, la première fois que ce terme fut employé pour désigner l'oligarchie. Fin de la note. Il y eut un silence prolongé. Les méditations de chacun se perdaient dans des avenues profondes et peu fréquentées.
« Mais votre socialisme est un rêve, » dit enfin M. Calvin. Et il répéta, « Un rêve !»«
Alors je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas un rêve, » répondit Ernest.
Et ce quelque chose, je l'appellerai l'oligarchie. Vous l'appellerez la ploutocratie. Nous entendons par là les grands capitalistes et les trusts. Examinons où est le pouvoir aujourd'hui. Il y a trois classes dans la société. D'abord vient la ploutocratie, composée des riches banquiers, magnats des chemins de fer, directeurs de grandes compagnies et rois des trusts. Puis vient la classe moyenne, la vôtre, messieurs, qui comprend les fermiers, les marchands, les petits industriels et les professions libérales. Enfin, troisième et dernière, vient ma classe à moi, le prolétariat, formé des travailleurs salariés.
Note, cette division d'Everard concorde avec celle de Lucien Sagnal, une des autorités de l'époque en fait de statistiques. Voici, d'après le recensement de 1900 aux États-Unis, le nombre d'individus répartis dans ces trois classes d'après leur profession. Classe des ploutocrates, 250 251. Classe moyenne, 8 429 845. Classe du prolétariat, 20 393 137. Fin de la note.
Vous ne pouvez nier que la possession de la richesse est ce qui constitue actuellement le pouvoir essentiel aux États-Unis. Dans quelle proportion cette richesse est-elle possédée par ces trois classes? Voici les chiffres. La ploutocratie est propriétaire de 67 milliards. Sur le nombre total des personnes exerçant une profession aux États-Unis, seulement 0,9% appartiennent à la ploutocratie, et cependant, la ploutocratie possède 70% de la richesse totale. La classe moyenne détient 24 milliards. 29% des personnes exerçant une profession appartiennent à la classe moyenne et jouissent de 25% de la richesse totale. Reste le prolétariat. Il dispose de 4 milliards. De toutes les personnes exerçant une profession, 70% viennent du prolétariat. Le prolétariat possède 4% de la richesse totale. De quel côté le pouvoir, messieurs?
D'après vos propres chiffres, nous, les gens de la classe moyenne, nous sommes plus puissants que le travail, remarqua M. Asmussen.
Ce n'est pas en nous rappelant notre faiblesse que vous améliorerez la vôtre devant la force de la ploutocratie, riposta Ernest. D'ailleurs, je n'en ai pas fini avec vous.
il y a une force plus grande que la richesse, plus grande en ce sens qu'elle ne peut pas nous être arrachée. Notre force, la force du prolétariat, réside dans nos muscles pour travailler, dans nos mains pour voter, dans nos doigts pour presser une détente. Cette force, on ne peut pas nous en dépouiller. C'est la force primitive, alliée à la vie, supérieure à la richesse et insaisissable par elle. Mais votre force à vous est amovible. Elle peut vous être retirée. En ce moment même, la plutocratie est en train de vous la ravir. Elle finira par vous l'enlever tout entière. Et alors, vous cesserez d'être la classe moyenne. Vous descendrez à nous. Vous deviendrez des prolétaires. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que vous ajouterez à notre force. Nous vous accueillerons en frères et nous combattrons coude à coude pour la cause de l'humanité. Le travail, lui, n'a rien de concret qu'on puisse lui prendre. Sa part de la richesse nationale consiste en vêtements et meubles, avec, par-ci par-là, dans des cas très rares, une maison pas trop garnie. Mais vous, vous avez la richesse concrète, vous en avez pour 24 milliards, et la plutocratie vous les prendra. Naturellement, il est beaucoup plus vraisemblable que ce soit le prolétariat qui vous les prenne auparavant. Ne voyez-vous pas votre situation, messieurs? Votre classe moyenne, c'est l'agnelet tremblotant entre le lion et le tigre. Si l'un ne vous a pas, l'autre vous aura. Et si la plutocratie vous a la première, le prolétariat aura la plutocratie ensuite. Ce n'est qu'une affaire de temps. Et même, votre richesse actuelle ne donne pas la vraie mesure de votre pouvoir. En ce moment, la force de votre richesse n'est qu'une coquille vide. C'est pourquoi vous poussez votre piteux cri de guerre. Revenons aux méthodes de nos pères. Vous sentez votre impuissance et le vide de votre coquille. Et je vais vous en montrer la vacuité. Quel pouvoir possèdent les fermiers ? Plus de 50% sont en servage par leur simple qualité de tenancier ou parce qu'ils sont hypothéqués. Et tous sont en tutelle par le fait que déjà les trusts possèdent tout gouverne, ce qui est la même chose, en mieux, tous les moyens de mettre les produits sur le marché, tels qu'appareils frigorifiques ou élévateurs, voies ferrées et lignes de vapeur. En outre, les trusts gouvernent les marchés. Quant au pouvoir politique et gouvernemental des fermiers, je m'en occuperai tout à l'heure en parlant de celui de toute la classe moyenne. De jour en jour, les trusts pressurent les fermiers comme ils ont étranglé M. Calvin et tous les autres crémiers. Et de jour en jour, les marchands sont écrasés de la même façon. Vous souvenez-vous comment, en 6 mois de temps, le trust du tabac a balayé plus de 400 débits de cigares rien que dans la cité de New York? Où sont les anciens propriétaires de charbonnage? Vous savez, sans que j'aie besoin de vous le dire, qu'aujourd'hui, le trust des chemins de fer détient ou gouverne la totalité des terrains miniers à anthracite ou à bitume. Le Standard Oil Trust ne possède-t-il pas une vingtaine de lignes maritimes? Note: Standard Oil et Rockefeller. Fin de la note. Ne gouverne-t-il pas aussi le cuivre? Sans parler du trust des hauts fourneaux qu'il a mis sur pied comme petite entreprise secondaire. Il y a 10 000 villes aux États-Unis qui sont éclairées ce soir par des compagnies dépendant du Standard Oil. Et il y en a encore autant où tous les transports électriques, urbains,
suburbains ou interurbains, sont entre ses mains. Les petits capitalistes jadis intéressés dans ces milliers d'entreprises ont disparu, vous le savez. C'est la même route que vous êtes en train de prendre. Il en est des petits fabricants comme des fermiers. À tout prendre, les uns et les autres en sont aujourd'hui réduits à la tenure féodale. Et l'on peut en dire autant des professionnels et des artistes. À l'époque actuelle, en tout sauf le nom, ils sont des vilains, tandis que les politiciens sont des valets. Pourquoi vous, monsieur Calvin, passez-vous vos jours et vos nuits à organiser les fermiers, ainsi que le reste de la classe moyenne, en un nouveau parti politique? Parce que les politiciens des vieux partis ne veulent rien avoir à faire avec vos idées ataviques. Et ils ne le veulent pas parce qu'ils sont ce que j'ai dit, les valets, les serviteurs de la ploutocratie. J'ai dit aussi que les professionnels et les artistes étaient les roturiers du régime actuel. Que sont-ils autre chose? Du premier au dernier, professeurs, prédicateurs, éditeurs, ils se maintiennent dans leurs emplois en servant la ploutocratie, et leur service consiste à ne propager que les idées inoffensives ou élogieuses pour les riches. Toutes les fois qu'ils se mettent à répondre des idées menaçantes pour ceux-ci, ils perdent leur place. En ce cas, s'ils n'ont rien mis de côté pour les mauvais jours, ils descendent dans le prolétariat et végètent dans la misère ou deviennent des agitateurs populaires. Et n'oubliez pas que c'est la presse, la chaire et l'université qui modèlent l'opinion publique, qui donnent la cadence à la marche mentale de la nation. Quant aux artistes, ils servent simplement d'entremetteurs au goût plus ou moins ignoble de la ploutocratie. Mais après tout, la richesse ne constitue pas le vrai pouvoir par elle-même. Elle est le moyen d'obtenir le pouvoir qui est gouvernemental par essence. Qui dirige le gouvernement aujourd'hui? Est-ce le prolétariat, avec ses 20 millions d'êtres engagés dans des occupations multiples? Vous-même riez à cette idée. Est-ce la classe moyenne, avec ses 8 millions de membres exerçant diverses professions? Pas davantage. Qui donc dirige le gouvernement? C'est la ploutocratie, avec son chétif quart de million de personnes occupées. Cependant, ce n'est pas même ce quart de million d'hommes qui le dirige réellement, bien qu'il rende des services de garde volontaire. Le cerveau de la ploutocratie, qui dirige le gouvernement, se compose de 7 petits et puissants groupes. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, ces groupes agissent à peu près à l'unisson. Note. Jusqu'en 1907, on considérait le pays comme dominé par 11 groupes. Mais leur nombre fut réduit par l'amalgamation de 5 groupes de voies ferrées en un cartel de tous les chemins de fer. Les 5 groupes ainsi amalgamés en même temps que leurs alliés financiers et politiques étaient les suivants. 1. James G. Hill avec sa direction du Nord-Ouest. 2. Le groupe des chemins de fer de Pennsylvanie avec Schiff comme directeur financier et de grosses maisons de banque de Philadelphie et de New York. 3. Harriman, avec Frick comme avocat conseil et Odell comme lieutenant politique, dirigeant les lignes de transport du Central Continental et de la côte du Pacifique sud-ouest et sud. 4. Les intérêts ferroviaires de la famille Gould et 5. Morse, Reid et Leeds, connus sous le nom de Rock Island Crowd. Ces puissants oligarques issu du conflit des rivalités, devait suivre inévitablement la voie qui aboutit à la combinaison. Fin de la note. Permettez-moi de vous esquisser la puissance d'un seul de ces groupes, celui des chemins de fer. Il emploie 40 000 avocats pour débouter le public devant les tribunaux. Il distribue d'innombrables cartes de circulation gratuites aux juges, aux banquiers, aux directeurs de journaux, aux ministres du culte, aux membres des universités, des législatures d'État et du Congrès. Il entretient de luxueux foyers d'intrigue, des lobbies au chef-lieu de chaque État et dans la capitale. Note, lobby, institution particulière ayant pour but d'intimider et de corrompre les législateurs qui étaient censés représenter les intérêts du peuple. Fin de la note. Et dans toutes les grandes et petites villes du pays, il emploie une immense armée d'avocatiers et de politicailleurs dont la tâche est d'assister aux comités électoraux et assemblées de partis, de circonvenir les jurys, de suborner les juges et de travailler de toute façon pour ses intérêts. Note, une dizaine d'années avant ce discours d'Everard, la Chambre de commerce de New York avait publié un rapport dont nous extrayons ces lignes. Les chemins de fer gouvernent absolument les législatures de la majorité des États de l'Union. Ils font et défont à leur gré les sénateurs, députés et gouverneurs et sont les véritables dictateurs de la politique gouvernementale des États-Unis. Fin de la note. Messieurs, je n'ai fait qu'ébaucher la puissance de l'un des 7 groupes qui constitue le cerveau de la plutocratie. Note. Rockefeller débuta comme membre du prolétariat et, à force d'épargne et de ruse, réussit à organiser le premier trust parfait, celui qui est connu sous le nom de Standard Oil. Nous ne pouvons nous empêcher de citer une page remarquable de l'histoire de ce temps pour montrer comment la nécessité pour la Standard Oil de replacer ses fonds en excédent écrasa les petits capitalistes et hâta l'écroulement du système capitaliste. David Graham Phillips était un écrivain radical de cette époque et cette citation d'un article de lui est empruntée à un numéro du Saturday Evening Post daté du 4 octobre 1902. C'est le seul exemplaire de ce journal qui soit parvenu jusqu'à nous. Mais, d'après sa forme et son contenu, nous devons conclure que c'était un des périodiques populaires à grand tirage. Voilà 10 ans environ, le revenu de Rockefeller était évalué à $30 millions par une autorité très compétente. Il avait atteint la limite des placements profitables dans l'industrie du pétrole. Désormais, d'énormes sommes en espèces, plus de $2 millions par mois, se déversaient dans la caisse du seul John Davidson Rockefeller. Le problème du remploi devenait très sérieux. Il tourna au cauchemar. Le revenu du pétrole grossissait, s'enflait toujours et le nombre des placements sûrs était limité, encore plus limité qu'à l'heure actuelle. Ce n'est pas précisément l'avidité de nouveaux profits qui poussa les Rockefeller vers d'autres branches d'affaires que le pétrole. Ils furent entraînés de force par ce flux de richesses qu'attiraient irrésistiblement les mans de leur monopole. Ils durent organiser un personnel spécial pour faire des recherches et enquêtes de nouveaux placements. On dit que le chef de ce personnel reçoit un salaire annuel de 125 000 $. La première excursion ou incursion remarquable des Rockefeller s'exerça dans le domaine des chemins de fer. En 1895, il gouvernait un cinquième de la longueur des voies ferrées du pays. Que possèdent-ils aujourd'hui ou que dirigent-ils comme propriétaires principaux? Ils sont puissants dans tous les grands chemins de fer de New York, nord, est et ouest, sauf un seul, où ils n'ont qu'une part de quelques millions. Ils sont dans la plupart des grandes lignes qui rayonnent de Chicago. Ils dominent dans plusieurs des réseaux qui s'étendent jusqu'au Pacifique. Ce sont leurs votes qui font la puissance de M. Morgan en ce moment. Il faut ajouter, cependant, qu'ils ont plus besoin de son cerveau qu'il n'a besoin de leur vote. Et la combinaison des deux constitue dans une large mesure la communauté d'intérêts. Mais les chemins de fer seuls ne suffisaient pas à absorber assez rapidement ces énormes vagues d'or. Les 2 500 000 $ de J.D. Rockefeller ne tardèrent pas à croître jusqu'à 4, 5, 6 millions par mois, jusqu'à 75 000 000 $ par an. Les pétroles devenaient tout bénéfice. Les remplois des revenus déversaient déjà leur mince tribut de plusieurs millions. Les Rockefeller entrèrent dans le gaz et l'électricité dès que ces industries furent assez développées pour constituer un placement sûr. Et maintenant, une grande partie du peuple américain, quel que soit le genre d'éclairage qu'ils emploient, doivent commencer à enrichir les Rockefeller dès que le soleil se couche. Puis ils se lancèrent dans les hypothèques de ferme. On raconte que, voilà quelques années, quand la prospérité permit aux fermiers de purger leurs hypothèques, J.D. Rockefeller en fut affecté presque jusqu'aux larmes. 8 000 000 $ qu'il croyait placés en sûreté à de bons intérêts pour des années à venir, furent soudainement accumulés sur le seuil de sa porte, réclamant à grands cris un nouvel emploi. Cette aggravation inattendue à son perpétuel souci de trouver des placements pour les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de son pétrole était plus que n'en pouvait supporter d'un cœur égal un homme affecté de mauvaise digestion. Les Rockefeller se mirent dans les mines, fer et charbon, cuivre et plomb, puis dans d'autres compagnies industrielles, dans les tramways, dans les obligations nationales, d'État ou municipales, dans les grandes lignes maritimes, les bateaux à vapeur et les télégraphes, dans les bienfonds et les gratte-ciel, et les maisons d'habitation, et les hôtels et les pâtés de bâtiments d'affaires, dans les assurances sur la vie et dans la banque. Il n'y eut bientôt plus qu'un seul champ d'industrie où plusieurs millions ne fussent à l'œuvre. La banque Rockefeller, la National City Bank, est de beaucoup la plus importante des États-Unis. Elle ne le cède dans le monde entier qu'à la Banque d'Angleterre et à la Banque de France. Les dépôts dépassent en moyenne 100 000 000 $ par jour, et elle domine le marché des valeurs à la criée de Wall Street ainsi que la bourse des fonds publics. Mais elle n'est pas la seule. Elle constitue le premier anneau d'une chaîne de banques Rockefeller, comprenant 14 banques et consortiums dans la cité de New York, outre des banques très fortes et très influentes dans tous les grands centres monétaires du pays. John D. Rockefeller possède des fonds de la Standard Oil, pour une valeur de 4 à 5 millions de dollars à la cote du marché. Il a 100 millions de dollars dans le trust de l'acier, presque autant dans un seul réseau des chemins de fer de l'Ouest, la moitié autant dans un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'esprit se fatigue à cataloguer ses richesses. Son revenu s'élevait l'an dernier à 100 millions de dollars environ. Il est douteux que les revenus de tous les Rothschild pris ensemble atteignent une somme supérieure. Et son revenu continue à progresser par sauts et par bonds. Fin de la note. Messieurs, je n'ai fait qu'ébaucher la puissance de l'un des sept groupes qui constituent le cerveau de la plutocratie. Vos 24 milliards de richesses ne vous donnent pas pour 25% du pouvoir gouvernemental. C'est une coquille vide, et bientôt cette coquille même vous sera enlevée. Aujourd'hui, la plutocratie a tout le pouvoir entre les mains. C'est elle qui fabrique les lois, car elle possède le Sénat, le Congrès, les cours et les législatures d'État. Et ce n'est pas tout. Derrière la loi, il faut une force pour l'exécuter. Aujourd'hui, la plutocratie fait la loi, et pour l'imposer, elle a à sa disposition la police, l'armée, la marine et enfin la milice, c'est-à-dire vous et moi et nous tous. La discussion ne dura guère après cela, et bientôt les convives se levèrent de table. Calmés et domptés, ils baissaient la voix en prenant congé. On aurait pu les croire encore épouvantés de la vision d'avenir qu'ils avaient contemplée. « La situation est certainement sérieuse, » dit M. Calvin à Ernest. « Je ne vois pas grand-chose à redire à la manière dont vous l'avez dépeinte. Je ne suis en désaccord avec vous que sur la condamnation de la classe moyenne. Nous survivrons et nous renverserons les trusts. » « Et vous reviendrez aux méthodes de vos pères, » acheva pour lui Ernest. « Parfaitement. Je sais bien que nous sommes en quelque sorte des braiseurs de machines et que c'est là une absurdité. » Mais toute la vie semble absurde aujourd'hui, par suite des machinations de la plutocratie. En tout cas, notre façon de briser les machines est du moins pratique et possible, tandis que votre rêve ne l'est pas. Votre rêve socialiste n'est qu'un songe. Nous ne pouvons pas vous suivre. Je voudrais bien vous voir, vous et les vôtres, quelques notions d'évolution sociologique. Répondit Ernest d'un ton soucieux en lui serrant la main. Cela nous épargnerait bien des difficultés.